Bien, bon matin, tout le monde. Bon matin. Merci, Mélodie, tu m'as introduit. Donc, tout le monde me connaît maintenant. Donc, moi, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un que moi, je ne connais pas ce matin? Ici. Ah, c'est pas trop mal. Merci beaucoup. Alors, juste pour vous mentionner, Mélodie, elle a dit, je travaille pour un mouvement de lutte contre la pauvreté, un mouvement international. Donc, c'était avec eux que j'étais au Sénégal. J'ai apporté des infolettes et des fiches qui sont derrière parce que je ne vais pas vous parler de ATD Carmonde ce matin. Donc, mais j'ai dit, si ça suscite la curiosité, sur le comptoir là-bas, il y a des fiches. Ça n'arrive pas très, très souvent que je prêche, que j'apporte la parole. D'ailleurs, j'ai un défaut, je ne me rappelle pas la dernière fois que c'est arrivé ici. Là, donc, excusez-moi. Ça devait être très bon, je suis certain, mais bon, voilà. J'ai été invité à prêcher dans une autre église, mais ce n'est pas encore arrivé, c'est au mois de septembre. Et là, je me suis dit, ah, comme c'est une église d'alliance, ben, je vais me mettre un cadre, je vais prêcher sur des choses qui font partie de l'alliance. Ce n'est pas nécessairement la position de l'alliance, c'est ce qui vient dans mon cœur, dans ma tête. Fait que c'est pour ça que ce matin, je vais vous parler de Jésus, notre Sauveur. Et dans le logo de l'alliance, c'est la croix qui est représentée par Jésus, notre Sauveur. Mais comme j'ai dit, je ne prêche pas souvent, j'ai souvent beaucoup de choses à dire. Ce qui fait qu'il y a des choses qui sont plus faciles de ne pas dire. Alors, on va faire un petit exercice, voilà, moi je regarde jusqu'où je peux aller. Ah, voilà, je peux venir jusqu'ici. Donc, je vais demander, 1, 2, 3, vos quatre rangées, tournez vos chaises sans trop les traîner, parce que je vais me tenir ici, je vais être debout ici, donc voilà. Donc ça, c'est le premier, mais tournez la chaise physiquement, parce que vous allez avoir mal au dos. Oui, voilà. Voilà. Donc ça, voilà, vous avez deux messages ce matin. Pas besoin de les ranger, juste vraiment tourner votre rangée. Voilà, comme Francis, c'est bien, comme... voilà, comme tous. Merci. Voilà, tiens, celle-là, on va la laisser comme ça. En fait, même tourner votre rangée pour regarder par là. Voilà, excusez. C'est assez précis. Donc, tiens, Jérémy, même, mettez votre chaise par ici. Voilà, comme ça. Exactement comme ça. Merci. Voilà. Ouais, tu peux rester droite par là. Tu vas juste avoir un petit torticolis, mais c'est pas si pire. Je pense. Je te souhaite, en tout cas, que ce soit pas si pire. Moi, j'ai pas pensé à mon installation physique. Voilà. Donc ça, je l'explique pas. Comme ça, si quelqu'un, si vous endormez ce message-là physique dans votre corps, bien, vous allez vous en rappeler. Ça, voilà. Mais c'est seulement pour vous dire que c'est pas simplement un jeu de position. Voilà, voilà. Vous demanderez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Maintenant, je sais que si quelqu'un ne comprend pas mes mots, eh bien, au moins, il y a quelque chose, vous allez repartir avec ça dans vos cœurs. Je vais vous lire un passage dans l'Évangile de Jean. Donc, vous pouvez... Jean... Attendez, si je ne me trompe pas, c'est Jean 22. Ça se peut-tu, Jean 22? Non, ça se peut pas, hein?
Non.
Ah, zut. Ouais, peut-être. Excusez, mais je vais regarder qu'est-ce que j'ai noté, moi, ici. Jean 18, ben oui, Jean 18. Jean 18, 1 à 12. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qui envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » « Ils lui répondirent, on cherche Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous dis que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Donc les autres disciples qui étaient là. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, pardon, quand je lève les yeux, je repère où je suis rendu, mais... Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je la coupe que le Père m'a donnée de boire? » La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était... Bon, j'arrête là. J'avais dit 12. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais utiliser, avec ce texte, j'aurais beaucoup plusieurs textes que j'aurais aimé vous lire. Je vais essayer de nous rappeler les circonstances de la mort de Jésus, comment Jésus est amené à la croix. Et vous voyez ici que Jésus, quand il est à Gethsémani, dans le jardin, il n'est pas en train de s'apitoyer. Il n'est pas en train de pleurnicher. Quand les gens lui disent « On cherche Jésus », il ne s'enfuit pas à ce moment-là. Il dit « C'est moi, je suis là ». Dans d'autres textes, j'ai pris le temps de regarder. Je me dis, à quel moment est-ce que Jésus s'est plaint quand il allait vers la croix? Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que Jésus a dit, ben là, ça va pas, tu sais, j'ai pas lu, voilà, tu sais, pauvre moi, je fais pitié, on va me tuer. Peut-être à un moment donné, il a dit à ses disciples, on s'en va à Jérusalem, ça va mal finir, les gars, tout le monde est contre moi. Bon, il ne l'a pas dit comme ça, justement. Jésus, il a dit, on s'en va à Jérusalem, ça va mal se passer. Il y a quelqu'un dans la gang qui a dit, wow, 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 on ne va pas laisser ça se passer. Toi, c'est Pierre qui a dit, ah, on ne va pas laisser ça se passer. Et Jésus, au contraire, il a regardé Pierre, puis il a dit une phrase célèbre qui a dit, arrière de moi. Hein? Il a dit à Pierre, arrière de moi, je ne vais pas renoncer à ça. On le voit ici dans le texte qu'on vient de lire, quand que la cohorte vient le chercher, Jésus y fait face. Il est là, debout, puis il fait face à ce qui s'en vient. Mais il y a un moment quand l'Évangile de Jean ne nous le rappelle pas, mais quand il est dans le jardin, il y a un moment où Jésus va quand même se plaindre. Et il va se plaindre, il va prier. Il va dire, « C'est-tu possible que cette coupe s'éloigne de moi? C'est-tu possible que ça n'arrive pas? » C'est-tu possible? Mais il ne se plaint pas aux disciples. Il ne se plaint pas aux soldats. Il ne se plaint pas sur TikTok. Hein? Il parle en prière, il parle à son père. Il dit, c'est possible que ça n'arrive pas. Et à la fin, après les trois fois qu'il va prier, il va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus se lève, et là, Judas va arriver avec la cohorte. C'est raconté dans un autre évangile de Luc. Là. Pardon, je ne vais pas regarder tout le temps mes notes, mais dans l'évangile de Luc, il le raconte. Après, il y a un autre moment où ce que Jésus il va encore se plaindre. Et là, c'est un moment qu'il va lâcher un cri. Et c'est sur la croix. Mais encore là, il ne se plaint pas aux gens qui sont en train de... Parce que quand il est sur la croix, il y a des gens qui l'insultent, puis qui sont là, puis il dit, « Ah, tu dis que tu as sauvé plein de monde, descends si tu es capable. » Et Jésus, il ne dit pas, « Ah, vous êtes méchants, arrêtez, c'est pas vrai, je suis gentil, je suis le fils de Dieu. » Non, il n'est pas en train de... Au contraire, il assume pleinement qu'est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait. Et quand la plainte qu'il va prononcer, c'est au Père encore, il va dire, « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? » Mais face aux humains, face à sa mission, face à son œuvre, il n'est pas en train de se plaindre. C'est pour ça que l'image que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, que je vous dis rapidement, tout de suite, c'est que Jésus est notre sauveur. Jésus est notre sauveur, pas par accident, comme un homme libre, comme un homme responsable. Quand il a prié, si tu peux éloigner cette coupe, il n'est pas dit, « Ah, OK, d'accord, je vais le faire parce que... » Non, il a dit, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et il a pris une décision. Et librement, Jésus nous sauve. Il prend ce geste et cet acte-là. Et il va vers la croix. Excusez, quand j'ai pensé à cette installation-là, je n'ai pas pensé que d'habitude, on a un lutrin puis que, voilà, les choses sont plus fixes, plus stables. Il y a un moment, c'est dans Luc 23, pardonnez-moi, je ne vais pas le... Il y a des gens qui vont plaindre Jésus. Vous rappelez-vous, quand il porte la croix, il y a les femmes de Jérusalem qui vont dire, « Pauvre petit poutre », puis elle pleure, puis elle se lamente, elles doivent jeter de la poussière, puis toujours ils sont là, « Pauvre petit poutre, c'est tellement injuste ». Et Jésus va leur dire, « Arrêtez de me plaindre, là. Pleurez pas sur moi. Pleurez sur cette ville, pleurez sur vous, pleurez sur vos familles, mais pleurez pas sur moi. » Et Jésus refuse même l'apitoiement. Il garde sa posture, comme si là, même battu, ensanglanté, avec la croix sur un bout de bois sur l'épaule, il assume, il a choisi, il a pris cette décision d'aller jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Dans quelques minutes, je vais juste vous faire un exercice. J'aime essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passait dans la tête de Jésus aussi. C'est pardonne-moi, Seigneur, c'est présomptueux des fois, mais voilà. Mais je reviens donc à cette position de Jésus, notre Sauveur, qui est un homme décidé. Il marche, bien sûr que quand je l'exprime comme ça, je me dis, j'imagine Jésus, tu sais, debout, fier, qui marche. Mais bon, il faut être réaliste, il était battu, il était frappé, il devait quand même être abîmé. Tu vois, ça, c'est quand même réaliste. Mais il n'y a pas un moment que les Écritures nous décrivent Jésus comme si on le traîne puis qu'il est là, non, 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 s'il vous plaît, arrêtez, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre, attendez. Il n'y a pas un moment où Jésus il pèse sur le frein. Quand son disciple va sortir son épée au jardin de Gethsémané, Jésus il dit, mais qu'est-ce que tu penses? Si je voulais, je pourrais faire appel à des légions, je pourrais faire appel à mon père, puis il enverrait des légions d'anges, puis ça serait fini. Tu vois? Il ne cherche même pas à fuir ou à prétendre. Il va répéter cette phrase semblable à Pilate quand il va se retrouver devant Pilate. Puis Pilate dit, mais là, les gens, ils crient dessus, ils t'insultent. Pardon, ce n'est pas la citation exacte, mais il va quand même dire à Pilate, tu n'as pas de pouvoir, toi, si ce n'était pas mon père qui te l'avait donné. Donc, je suis là, puis je l'assume pleinement d'être là. Jésus ne cherche pas à fuir ni à se faire plaindre. Je dois vous dire aussi une des raisons pour laquelle j'ai eu cette image de Jésus qui m'a frappé. Excusez-moi. Non, ben pas qui m'a frappé, mais que je voulais vraiment mettre en lumière, vraiment accentuer cette image de ce Jésus qui nous sauve, qui est sauveur. Parce que vous remarquerez dans l'actualité, on entend des gens très puissants, très forts, qui ont beaucoup de pouvoir, qui se présentent comme peut-être même comme des gens qui vont sauver ou bouleverser l'ordre du monde, qui en même temps jouent sur la victimisation, puis qu'ils font donc pitié, puis il y a des gens qui s'élèvent contre eux, puis ils font pitié. Ça, je vous laisse aller découvrir ça dans l'actualité ou sur TikTok ou YouTube. Mais je me suis dit, est-ce que Jésus était comme ça? Est-ce que Jésus, c'était tout-puissant, puis qui en même temps, il se dit, « Ah non, mais non, nous, on est menacés, les gens, ils nous veulent du mal. » Mais au contraire, Jésus, quand il marche vers la croix, il est déjà bien avant. Il a décidé, il est un homme libre, il est un homme aussi qui est responsable, qui l'assume, cette responsabilité d'aller jusqu'à la croix pour nous sauver. L'autre image que je voulais venir, c'est il nous sauve de nos péchés, hein, il nous sauve de nos malheurs. Maintenant, si on regarde aussi dans d'autres textes, il nous sauve aussi de réalités concrètes de nos vies. Hein, c'est un problème. Jésus, il vient, il nous sauve aussi de cette situation. On lit dans les psaumes que Dieu nous sauve de nos anxiétés, de nos peurs aussi. Donc, d'une manière, il nous sauve aussi de manière concrète. Mais quand Jésus va vers la croix, ce qu'on rencontre, ce qu'on découvre, il nous sauve aussi de la condamnation de nos péchés. Il nous sauve de nos péchés. Mais, ce que j'aimerais vous demander, est-ce que ce sont nos péchés qui l'ont tué? Est-ce que ce sont nos péchés qui l'ont terrassé? Je le dis parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. Moi le premier, dans mes plusieurs années de vie chrétienne, je pense que j'ai eu cette idée que mes péchés ils sont une menace pour Jésus. Que Jésus il est mis en danger par mes péchés puis par les péchés du monde. Or, ce que je dis ce matin, ce n'est pas nos péchés qui dirigent Jésus. D'accord? Jésus, c'est pas nos péchés qui crucifient Jésus sur la croix. C'est ce choix d'homme libre et responsable de Jésus d'aller à la croix et de dire, moi, je vais les affronter, vos péchés. Je vais les affronter, votre condamnation. Je vais les affronter, vos misères et vos peines en tant que sauveur.
Amen.
Amen. Amen. Et donc, c'est pas... moi, je ne peux pas dire que je l'ai entendu dans une prédication, mais je sais que dans mon imaginaire, j'ai parfois eu cette impression que mes péchés, ils vont... mes péchés, ils font souffrir Jésus sur la croix. Comme si c'est la peine de Jésus, il venait de mes péchés, il venait de nos péchés, il venait des péchés de l'histoire de l'humanité. Or, ce n'est pas nos péchés, en fait, qui font souffrir Jésus. C'est Jésus qui attrape nos péchés. Puis là, je l'imaginais... Excusez-moi pour ceux s'il y a un enregistrement. Mais voilà.
J'imaginais Jésus qui essaie d'attraper nos péchés avec toutes les doigts. Vous avez déjà essayé de débarrasser une table, mais vous n'êtes pas serveur ou serveuse. Puis là, vous attrapez tout. Puis là, vous mettez quelque chose comme ça. Oh, désolé, pour ceux qui comme ça. Puis là, vous essayez d'attraper tout. Donc, j'imagine Jésus qui attrape tous nos péchés comme ça, puis qui... C'est pas les péchés qui l'attrapent lui, c'est lui qui l'attrape, puis qui fait une prise de lutte, puis qui... puis le terrasse, puis il descend aux enfers.
Et c'est lui qui sort des enfers après. Parce que nos péchés n'ont pas... sont pas une montagne immense qui se tombe sur lui, puis qui... « Oh, pauvre de moi, je vais quand même le faire. » Tu vois? Non, Jésus, c'est ce sauveur qui, debout... Mais je dis debout, comme je dis, il était blessé. Là, dans la vraie, si on fait un film, il faut imaginer qu'il est blessé. Mais dans sa conscience, dans sa décision, dans sa volonté, il est debout, puis il les attrape, nos péchés, puis il n'a pas peur. Souvent, j'ai cette image, en fait, de Jésus, qui est comme notre héros, comme le petit David. Le petit David qui était, il était petit, je ne sais pas, il était peut-être, même s'il était adolescent, il était peut-être quand même grand comme Ryan là, ou quelqu'un d'autre. Tu vois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il mangeait à cette époque-là, s'il grandissait autant que nos enfants, mais et qui se retrouve à quelque part et qu'il y a Goliath qui menace toute l'armée et que tout le monde tremble. Et que David, le berger, qui est encore adolescent ou jeune adulte, qui arrive, puis il dit, c'est qui lui? Comment il se permet Et face à nos misères, face à nos malheurs, face à nos péchés, Jésus, il est ce petit, ce David qui se tient là et qui dit, « Qui es-tu pour faire trembler mes frères, mes sœurs? Qui es-tu pour faire trembler ma création? » Et qui met au défi Goliath, qui met au défi ce qui nous fait peur, ce qui nous terrifie, puis qui dit, « Je vais te terrasser. » Et souvent, nous, les humains plus ordinaires, plus faibles, on est comme les soldats de l'armée de Saül, on est comme le roi Saül lui-même, puis on se dit, « T'es-tu sûr? Tu vas y arriver? » Mais nous, on le sait, Jésus y est arrivé. Il les a attrapés, toutes nos condamnations. Et il les a terrassés, descendus en enfer. Ce qui fait que Jésus, notre Sauveur, n'est pas non plus dirigé par nos péchés. En fait, excusez, je vais vous dire les sentiments de mon cœur, c'est que Marc m'a dit, c'est l'été, il ne faut pas parler trop longtemps. Donc, j'ai l'impression que je saute des raccourcis, mais bon, je ne suis pas inquiet, j'ai confiance en vous, voilà. Vous avez un sens que j'ai confiance que ce que vous avez besoin, ce que vous avez souhait d'entendre, vous l'entendez. Et si je suis incompréhensible à un moment donné, si je vais trop vite, vous m'excuserez. Je ne devrais pas faire des apartés comme ça, j'oublie ce que j'étais en train de dire. Voilà. Souvent, oui, en fait, je vous disais, qu'est-ce qui se passait dans la tête de Jésus quand il allait à la croix? C'est quelque chose que je me suis demandé, ça, parce que prendre sa croix, et j'ai l'impression que ça serait un troisième ou un quatrième message que je pourrais faire, mais prendre sa croix, je ne sais pas pour vous, mais j'ai souvent eu l'image que prendre sa croix, je vais prendre ma croix, puis je vais aller faire la vaisselle. Je vais prendre ma croix, puis... Ce ne serait pas à toi de prendre ta croix pour changer la couche du petit, tu vois? Je vais prendre ma croix, puis je vais, tu vois, je vais me lever ce matin pour aller travailler, tu vois? Puis on a cette image apitoyante, je dirais encore, que prendre sa croix, c'est pénible, puis c'est dur, puis c'est à contre-cœur, tu vois? Mais moi, avec la lecture, puis l'image que je vous propose là, de Jésus, je n'imagine pas Jésus de dire au Gethsémané, si tu pouvais m'éviter de boire cette coupe-là. OK, d'accord, je vais y aller. Tu vois, comme un adolescent, puis qui dit, pardon pour les adolescents, vous êtes beaucoup plus dynamique que ça. Mais, voilà. Mais, tu sais, qui traîne les pieds, puis qui dit, bon, OK. Puis là, paf, Judas arrive, puis il dit, bon, ah ouais, Judas, fais ce que tu as à faire. Tu vois, puis là, Judas, il fait une bise. Là, tu vois, bon, tu vois, juste dans le petit texte qui dit à la cohorte, qui vous cherchez? Tu sais, ça me donne l'image d'un Jésus quasiment baveux un peu, tu vois. Vous cherchez qui? Tu vois, ça aurait pu être un des disciples qui va voir la cohorte, qu'est-ce que tu fais là, Judas, qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches qui? Oh, on cherche Jésus. Ah oui, bien, il était avec nous autres là-bas, mais attends, il est peut-être parti prier un peu plus loin. Non, c'est Jésus lui-même qui accueille la cohorte puis qui dit, qui c'est vous cherchez? Je cherche Jésus de Nazareth. C'est moi. Moi, je suis plus taquin. Si quelqu'un me dit qui vous cherchez, je vais faire des blagues, je vais taquiner, surtout si j'imaginais que c'était une cohorte. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une escouade de police qui vient me chercher, tu vois, mais là, tu vois, j'essaierai de tempériser. Voilà. Jésus, non, go straight. C'est moi. Quand il se retrouve devant les pharisiens, pas les pharisiens, le Sanhédrin, puis qu'il y a plein de fausses accusations, et que les gens, ils disent, mais est-ce que tu n'entends pas comment ils t'accusent? Et Jésus est silencieux. Mais dans cette perspective-là, je me dis, il n'est pas silencieux comme, ah ouais, qu'est-ce que ça passe, là? Faut que je meure, faut que j'aille à la croix. Hein? Bon, OK. Tu vois? Non, Jésus, il est là, il fait face aux fausses accusations. Et quand souverain sacrificateur lui dit, t'entends pas? Dis-nous-le maintenant, c'est-tu toi le Fils de Dieu? Et Jésus qui, confrontant comme ça, il dit, ben c'est toi qui le dis. Puis en plus, vous allez voir le ciel s'ouvrir, puis le Fils de l'homme descendre avec les anges. Et là, le souverain sacrificateur, il, justement, paf, il a vraiment, Jésus l'a vraiment provoqué et il l'envoie à Pilate, puis il cherche comment le faire mourir. Et Jésus ne se défile pas. Jésus est toujours un homme libre et responsable qui fait face à notre besoin de salut. Comme je dis, ce n'est pas nos péchés qui l'écrasent, c'est lui qui terrasse nos péchés. Maintenant, je vous lis un passage et j'aime imaginer que c'est ce qui se passait dans la tête de Jésus. Alors qu'il marche vers la croix. En me disant, ce n'est pas nos péchés qui tuent Jésus, ce n'est pas nos péchés qui motivent Jésus, qui l'amènent à la croix. C'est pas nos... Et je le dis ça, je le répète pas assez longtemps, mais parce que vraiment, je crois que nos péchés ne sont pas le centre de l'univers. Ils ne sont pas là, Dieu n'est pas, ah oh non, zut, ils ont péché, qu'est-ce qu'on va en faire, tu vois? Comme si c'était un accident, comme si tout ce qui se passait, c'est du damage control, du gestion de problèmes, tu vois? Comme si, non, le Seigneur, il prend des décisions. Et j'aime imaginer que quand Jésus s'en va à la croix, mais quand il porte la croix, quand il est flagellé, quand que ça va mal, sa motivation, elle est ici. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et ce que j'aimerais... mettre l'accent, c'est par amour que Jésus fait cette décision. C'est par amour que Jésus nous sauve. C'est par amour que Jésus a vécu la vie qu'il a vécue et qu'il a subi la mort qu'il a subie et qu'il a triomphé par la résurrection. C'est l'amour qui motive Jésus quand il vit en nous et qui nous accompagne dans nos vies. Dans nos peines, dans nos difficultés. C'est l'amour de Jésus qui nous guide comme ça. Je dis en particulier parce que certainement moi-même, je l'ai pensé, mais je me rappelle, il n'y a pas longtemps, un homme, il avait l'impression que que ses fautes, ses péchés étaient trop grands et que l'ennemi était trop grand. Et que l'ennemi allait le bouffer, lui, comme Goliath voulait bouffer les soldats. Mais il ne pouvait pas manger les soldats, mais il voulait terrasser les soldats. Alors que la motivation du Seigneur, quand il marche vers la croix, c'est le fait de nous aimer et d'endurer toutes ces choses, au point de justement pour pouvoir en être notre sauveur. Et donc, on n'a pas à craindre même ce qui peut nous faire peur, que ce soit nos péchés, que ce soit l'ennemi, que ce soit d'autres êtres humains. Jésus les a terrassés, Jésus les a vaincus. Et c'est de cette manière-là qu'il est notre sauveur. Et j'aimerais dire, comme dernière illustration, quand je lisais au jardin de Gethsémané, c'est vrai que Jésus, il rabroue un peu les disciples, tu vois. Il dit, vous n'êtes pas capable de rester réveillé un peu puis de prier. Jésus est au jardin, il va prier à l'écart et il demande si cette coupe peut m'être éloignée. Mais après, quand il revient, il voit ses disciples qui dorment. Puis là, il dit, comment, vous n'êtes pas capable de rester réveillé un peu? Il va faire ça trois fois. Et la troisième fois, la cohorte va arriver. Mais j'ai pensé... Jésus, il ne corrige pas ses disciples parce qu'il s'est dit, ah, si vous aviez prié, si les 12 vous aviez prié, là, ou les 11 parce que Judas était parti, bien, peut-être que je n'aurais pas bu la coupe. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas l'idée que ce n'était pas un accident qu'ils s'endorment puis que, ah non, zut, s'ils n'avaient pas dormi puis ils avaient intercédé pour Jésus, peut-être que Jésus ne serait pas mort sur la croix. Non, pas du tout. Jésus avait clairement, il savait clairement que, et il avait décidé, il avait accepté, il avait décidé. Donc, c'est pas non plus par accident que Jésus se retrouve à la croix. C'est pas par, c'était un choix d'amour pour moi, pour toi, pour nous tous, pour le monde entier. Pour le monde entier avant qu'on soit là, le monde entier qui continue jusqu'à son retour. Donc, apprécions puis adorons notre Seigneur qui nous aime, qui nous sauve. Il nous a sauvés et il continue de nous sauver. Il est présent dans votre vie aujourd'hui et toute cette semaine, comme toujours ce même sauveur. Il ne se défile pas. Amen.
Amen.
Je vais inviter l'équipe de louanges à venir. Je vous propose de rester assis comme ça parce que ça fait partie du premier message que je vous ai fait. De continuer comme ça et de... voilà, oui, on est ensemble, on est face à face. Et bon, désolé pour l'équipe de louange, j'ai quelques d'autres têtes, mais nous, quand on loue le Seigneur, on a toujours des d'autres têtes aussi. Donc, voilà. Amen. Seigneur, je suis impressionné parce que tu nous as sauvés, tu nous sauves. Et aujourd'hui, peut-être certains ici... on a besoin d'un salut aussi, dans une circonstance de la vie. Pas uniquement un salut éternel. Et on veut se tourner vers toi parce que nous savons que face à nos péchés, face à nos manquements, face à nos fautes, tu n'es pas terrassé. C'est toi qui as terrassé ce qui nous abaisse. Et je te prie de remplir nos cœurs de cette foi, de cette assurance, de cette confiance. Qu'on puisse confier dans ton amour. Que tu as amené à son comble par la croix et la résurrection. Et Père, merci de nous avoir donné ton Fils. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.